Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour une conférence sur le thème de l'intelligence artificielle. Mickaël Reimert et moi-même avons pensé que c'est un sujet qui pouvait vous intéresser. Et aussi, nous avons trouvé deux intervenants de qualité pour nous exposer un peu les atouts et les dangers de l'intelligence artificielle. Layas, merci d'être présent. John Parsons, malheureusement, est en déplacement et ne pourra pas assister à cette conférence, ainsi que quelques retraités, car malheureusement, les hasards du calendrier font que le tribunal administratif tient aujourd'hui son audience sur le recours sur la CSG et le CRDS. Donc ça nous prive de quelques retraités. Mais bon, on était tellement contents d'avoir à la fois Yannick et Patrick pour cette conférence cet après-midi qu'une fois les invitations lancées, on a décidé de tenir cette conférence. Donc merci d'être présent et je vais laisser la main à Mickaël qui va être le modérateur de cette réunion.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mickaël Reimert, un membre assez récent de l'AIAS ayant pris ma retraite anticipée il y a 2 ans. Et c'est ma première action ensemble avec Philippe d'organiser une conférence. Et je me félicite de votre présence nombreuse. J'ai vraiment l'honneur et le plaisir de vous présenter nos deux intervenants qui sont tous les deux des experts dans le domaine dont on va traiter aujourd'hui. La thématique me tient beaucoup à cœur moi-même parce que à la fin de ma carrière, j'étais le chef de la division des politiques éducatives et une de nos tâches était de préparer des instruments dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté numérique. Et je sais que mes collègues travaillent aujourd'hui aussi dans ce domaine. C'est intéressant dans le contexte de notre conférence aujourd'hui parce que, comme Patrick Pennings nous expliquera plus tard, il y a cette nouvelle convention cadre sur l'intelligence artificielle et partie de ces travaux seront aussi des instruments juridiques par l'avenir dans plusieurs autres domaines du Conseil de l'Europe, y inclut l'éducation. Alors, le Conseil, vraiment, est, comme très souvent, dans l'avant-garde de cette nouvelle évolution. Mais sans tarder, je donnerai maintenant la parole à notre premier intervenant, Yannick Münzer, qui vient de partir du Conseil de l'Europe, mais il va vous dire un peu sur lui-même avant de donner sa présentation. Alors je te donne la parole avec grand plaisir. Tu l'as.
Merci beaucoup. Oh. Chers collègues, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je me joins à vous. Je me joins également, on n'est pas intervenu si souvent que ça, Patrick. Je pense ensemble, puisque j'ai eu la chance de travailler au Conseil de l'Europe de 2014 à 2024, à la CEPEJ d'abord, et puis auprès de Patrick, sur la Société de l'Information, où sans flagornerie, maintenant, on ne se doit rien, on peut se dire les choses franchement. Patrick a été pour moi un réel mentor sur la manière de produire de la connaissance au service du Conseil de l'Europe sur le numérique, où vous le verrez, j'espère ne pas être trop me laisser emporter par ma passion du sujet lors de mon exposé, mais c'est quelque chose, moi, qui me tient énormément à cœur. Je suis actuellement magistrat français. J'ai commencé comme magistrat français en 2006. J'ai fait donc 10 ans au Conseil de l'Europe en disponibilité. Et là, je viens de réintégrer mon corps en tant qu'inspecteur de la justice, à l'inspection générale de la justice, qui est donc le corps de contrôle de fonctionnement des tribunaux. Mais ce corps d'inspection générale a, parmi ses cordes, également des missions d'expertise. Et c'est pour cela que les collègues français, voyant ma demande de réintégration, ne se sont pas trop n'ont pas laissé passer l'occasion et m'ont réintégré assez rapidement sur ces fonctions-là, où aujourd'hui le cœur des réflexions que l'on mène, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des systèmes judiciaires et particulièrement des tribunaux. Donc je contribue, parmi beaucoup d'autres tâches, à réfléchir sur ce sujet-là. Aujourd'hui, ma mission, alors je me donne 20 minutes, Michael, pour laisser du temps à Patrick, peut-être, et pas trop déborder.
Hein,
bon, on va dire 20-25 minutes. J'ai un chrono sous les yeux pour ne pas être trop long. Mon défaut, parmi mes grands nombres de défauts, je suis bavard, donc vous n'hésiterez pas à m'interrompre si jamais je débordais de trop. Mais ma mission va être de dresser le décor, setting the scene. Pourquoi, diable, veut-on encore apporter du droit, là où il y en a déjà partout, où on trouve beaucoup de textes déjà applicables en matière numérique. Je pense singulièrement à la protection des données, la protection des données à caractère personnel. Est-ce que chaque fois que l'on aurait un nouvel événement, une nouvelle technologie qui apparaîtrait dans le décor, doit-on se précipiter à réglementer ? Si aujourd'hui on pose cette question-là aux différents représentants d'intérêts, aux décideurs publics, la réponse est souvent très contrastée. Elle est très contrastée parce que, je vous le disais, on vit, et peut-être quelque part tant mieux, en tout cas, vous aurez vite compris mon point de vue sur le sujet, on vit dans un état de droit, et c'est cet état de droit qui nous procure les équilibres nécessaires à maintenir un système démocratique et à protéger nos droits humains. Ça, je n'ai pas à vous l'apprendre. Vous avez travaillé au service de l'organisation pendant assez longtemps. Ce qui est neuf dans cette affaire-là, c'est que les technologies, et celles singulièrement que je vais vous présenter comme l'intelligence artificielle, nous sont souvent présentées comme un outil relativement neutre. Je reprendrai cette image du marteau, vous le verrez dans ma présentation, hein, où ce serait ce que l'on en fait qui déterminerait le bon usage ou le mauvais usage. Ce que je vais essayer de partager avec vous, et pour préparer le terrain de l'intérêt d'une réglementation, c'est d'essayer de vous donner des éléments pour comprendre que cette technologie grand 1 n'est pas neutre. Elle embarque avec elle un certain nombre de valeurs, et on verra lesquelles. Et d'autre part, que ce n'est pas qu'un simple outil. Quand vous commencez à pouvoir manipuler de l'information, traiter de l'information, la hiérarchiser, eh bien, cela emporte une part de pouvoir. Et donc, quand aujourd'hui, vous avez des outils hein, comme ChatGPT, j'en parlerai sous le terme d'intelligence artificielle générative, hein, c'est-à-dire d'outils algorithmiques qui permettent de créer des contenus, eh bien, quand vous avez ces types d'outils-là qui permettent aux professionnels, avec, a priori, si on en croit OpenAI ou les représentants d'intérêt, beaucoup de certitude que ces outils vont améliorer notre quotidien. Probablement. Mais on leur délègue aussi une part de pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui vont maîtriser l'intelligence artificielle, ceux qui vont maîtriser la création de ces algorithmes, ceux qui vont en maîtriser la sortie, ce que cela produit, eh bien, vont s'insérer dans tous les processus de décision. Et quand je dis tous les processus de décision, j'entends bien ce que je veux dire. Ce n'est pas que les jeux vidéo. Hein. On en parle, c'est mon cœur de métier, dans la justice. On en parle dans la santé. On en parle dans les transports, la sécurité. Donc mon propos aujourd'hui avec vous ne va pas être, et entendez-moi bien, un propos alarmiste. Je ne vais pas essayer, et j'y arriverai probablement pas, de vous convaincre que c'est bien ou que c'est mal. Je pense que cette grille de lecture, bénéfice-risque, est insuffisante pour comprendre réellement les objets dont on parle. Et pour comprendre les objets dont on parle, vous allez être obligé de me suivre, et je vais vous servir de Sherpa, vers un tout petit peu de technique, et je vais essayer de vulgariser avec vous ce qu'il y a dans le cœur de cette intelligence artificielle qui n'est pas, encore une fois, qu'un simple outil ou la réplication d'un cerveau humain. Donc, premièrement, on a un problème de définition de cet outil-là. Puisque là, on vient d'utiliser ce mot intelligence artificielle ensemble, inévitablement, vous en avez une représentation. Là, la format ne nous permet peut-être pas d'avoir autant d'interactions que cela, mais si je vous interrogeais ou que je demande à quelques volontaires de me dire quelle est leur représentation de l'intelligence artificielle, sans aucun doute, nous aurions des représentations très différentes. On peut parler, pour les plus anciens, moi je l'ai connu aussi, vous l'avez connu probablement, Big Blue, 1997, ce premier ordinateur aux échecs. On s'en rappelle. J'étais appelé de l'intelligence artificielle. Quand, dans mes plus jeunes années, de mon côté, dans les années 80 en France, on a eu le plan informatique pour tous, qui était un plan de l'éducation nationale française pour former les jeunes de l'époque à l'informatique. On avait des petits ordinateurs personnels assez mal fichus, mais qui nous permettaient d'apprendre l'informatique. Eh bien, moi, sur mes claviers, qui n'étaient pas des claviers, c'était des claviers en gomme, là, enfin, des claviers en plastique, là, quand je disais à vos programmes informatiques, qui s'appelait du logo, le langage, c'était le logo, c'était une petite tortue que vous pouviez, et que j'expliquais à la, eh bien, déjà, à l'époque, pour nous, c'était de l'intelligence artificielle. Donc, le premier élément que je vais partager avec vous, c'est que derrière ce terme-là, eh bien, en réalité, on a différents types de techniques, de technologies qui sont très, très, très différentes. Et quand on parle de maîtriser les risques de cette technologie-là, eh bien, si on se satisfait de ce simple terme intelligence artificielle, eh bien, il y a des grands risques de malentendus. J'insisterai ensuite sur les problématiques d'ordre technique et sociétal. Parce que, une fois posée l'ambiguïté de la définition, les enjeux qui se posent à nous sont des enjeux au moins aussi importants que des technologies majeures qui peuplent aujourd'hui notre quotidien. Je pense au nucléaire, je pense à l'industrie du médicament, l'agroalimentaire, où nous avons affaire à des industries qui sont ultra réglementées. Et, par un fait de l'histoire assez saisissant, mais j'y ai modestement contribué avec Patrick et d'autres collègues, on s'est entiché de l'idée que les algorithmes étaient peut-être pas si neutres que cela, et que plutôt que de laisser des grands groupes industriels investir nos quotidiens et de définir pour nous ce qui est bien et ce qui est mal, eh bien de remettre un peu là-dedans du droit. Et pas n'importe quel droit, c'est le droit que cette maison défend. Donc, et donc les réponses juridiques, donc j'irai assez vite sur cela, puisque je laisserai à Patrick développer cet aspect-là. Je dirai un mot, moi, de mon côté, sur le règlement sur l'intelligence artificielle de la Commission européenne. Juste pour, en transition, faire l'articulation avec le travail du Conseil de l'Europe, puisque s'il y a un fait majeur en matière de réglementation de l'intelligence artificielle, c'est que le bus des régulateurs est bondé. Tout le monde est dedans. Et dans ce bus des régulateurs, on peut s'interroger sur qui tient le volant. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui assez difficile à déterminer. Néanmoins, chacun y a joué son rôle, et ce que j'essaierai d'illustrer avec vous, c'est l'engagement de l'ensemble des collègues qui ont contribué à ce travail-là pour y mettre du sens et montrer comment nous avons essayé d'articuler le mieux possible l'intervention du Conseil de l'Europe avec celle des autres organisations. Parlons rapidement de ce problème de définition, et j'irai assez vite avec cet imaginaire. L'imaginaire qui peuple aujourd'hui nos cerveaux, notre compréhension du sujet. Vous avez à ma gauche HAL 9000, que vous avez peut-être reconnu pour certains, qui est l'ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick. D'ailleurs, HAL n'avait été choisi par hasard par Kubrick. La légende voudrait qu'il y ait une lettre à décaler pour faire IBM. Et donc, l'entreprise qui, au moment du tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, était la plus en pointe en matière d'intelligence artificielle. Et l'autre, c'est toute la littérature. Alors, j'ai pris Terminator, j'aurais pu prendre Blade Runner, j'aurais pu prendre d'autres films, avec l'idée de machines dont on perd le contrôle. Et cette affaire-là de machines dont on perd le contrôle, ce n'est pas tout à fait neuf. Revenons à la mythologie. Par exemple, la mythologie hébraïque, le golem, ça nous raconte déjà cette histoire-là. Si vous allez dans la mythologie grecque, Héphaïstos aussi forge des grands géants de fer qui se déplacent, mais qui sont un peu stupides et vont massacrer les gens autour d'eux. Donc, cette idée d'une technologie que nous concevrions et qui nous dépasse est quelque chose qui est imprégné très profondément dans notre culture. Et ça, quand on parle d'intelligence artificielle, immédiatement, on ne peut pas faire autrement que d'avoir ça en musique de fond derrière soi. Pourtant, ce n'est pas ce dont on va parler. Donc, ce que je vous demande à partir de maintenant, c'est de vous départir de tout cet imaginaire-là qui, volontairement ou volontairement, ne peuple. Il y a un biais, mais on va parler bien de choses, malheureusement ou heureusement, un peu plus concrètes, qui sont d'une part les supports matériels, les ordinateurs, nos smartphones, j'emploierai le terme un peu ringard maintenant, mais qui qualifie bien les choses d'informatique, avec les réseaux, et derrière, des éléments immatériels, qui sont les logiciels, les programmes, les données, cet or, ce carburant aujourd'hui de notre siècle, qui compose tout cela. Quand on parle d'intelligence artificielle, en réalité, on parle de cet ensemble-là, et pas du tout d'un ensemble fantasmatique. Donc, de mon intervention, et je pourrais quasiment m'en arrêter là, mais bon, désolé, j'ai encore un peu de choses à vous dire, donc je ne m'arrêterai pas là, on est sur une approche mathématique, statistique et probabiliste. C'est-à-dire que notre environnement, les questions, les problèmes qui sont à résoudre, sont transformés en données manipulables par l'informatique, donc ça peut être des lettres, mais aussi des nombres, si on va à la couche la plus basse, c'est du binaire, hein. Et la méthode pour traiter cela, eh bien, c'est des approches mathématiques, statistiques, probabilistes. La plus simple que je pourrais évoquer avec vous, hein, en langage de programmation, c'est le « si quelque chose se passe, alors comporte-toi comme ça, sinon, fais-le autrement ». Ce que je viens de vous dire est la base de tout langage informatique. Il y a quelque chose d'un tout petit peu nouveau dans cela, et juste un petit détour hein, pour partager avec vous quelques noms. Hein. Alan Turing, bien sûr, Claude Shannon, tous ces précurseurs-là ont imaginé ce qu'allait être l'informatique, pour employer le terme exact. Ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas tout à fait nouveau. Les bases de réseaux de neurones, de l'apprentissage automatique, de toutes ces technologies-là, en réalité, tiennent ces personnes que je vous ai affichées pour fondateurs. Donc la seule chose qu'il y a de nouvelle dans cette affaire-là, c'est qu'on a sophistiqué les approches, évidemment. On a eu beaucoup de données grâce à Internet. On a eu également la puissance de calcul des ordinateurs qui s'est accrue. Mais derrière les fondamentaux, vous avez Alan Turing hein, sur l'approche computationnelle, c'est le terme que je cherchais, Claude Shannon sur ce qu'on appelait la théorie de l'information, Walter Pitts et Warren McCulloch, on est en 1943, durant les conférences Macy aux États-Unis. Conférence réunissant les meilleurs chercheurs américains pour lutter contre l'Allemagne nazie. Et Walter Pitts et Warren McCulloch théorisent le neurone formel, c'est-à-dire une imitation mathématique simplifiée du fonctionnement de nos neurones. Vous avez, avec ces précurseurs, les fondateurs de l'approche. Le terme intelligence artificielle, on le doit à gauche à John McCarthy. John McCarthy n'aimait pas ce terme. John McCarthy voulait utiliser, c'était son champ de recherche, Automata Studies. Mais devenez quoi ? En tant que chercheur, il avait besoin d'argent. Et quand on a besoin d'argent, il faut vendre ce que l'on fait. Donc le Rockefeller Institute, pour le financer, lui a dit, John, écoute, va falloir un peu rendre ça un peu sexy, hein, donc on va trouver un terme. Et le terme qui s'est imposé, je ne le développerai pas là, en rupture avec la cybernétique de Norbert Wiener, c'est John McCarthy qui le pose avec le terme d'intelligence artificielle. Et de manière contemporaine, eh bien, tout ce que je viens de vous présenter dans les fondateurs, c'est trois chercheurs, Yann Lequin, qui est français, qui travaille actuellement chez Meta, Joshua Bengio, qui est franco-marocain, qui travaille au Canada, hein, qui dirige notamment le MILA, un des meilleurs laboratoires d'intelligence artificielle, et Geoffrey Hinton, qui a reçu le prix Nobel, d'ailleurs, cette année, hein, et tous les trois ont eu le prix Turing, qui ont permis cette résurgence de l'apprentissage par les réseaux de neurones et qui ont rendu possible la révolution dont nous discutons aujourd'hui. Donc, pourquoi le terme intelligence artificielle est un mot en réalité très mal choisi ? Je vais me permettre une image pour le partager avec vous et vous le rendre sensible. Si je vous pose cette question de manière aussi claire que celle que vous avez à l'écran, quels sont les risques d'utiliser un véhicule pour me rendre à mon travail ? On peut en citer quelques-uns. Les embouteillages, l'accident, des risques de chute, le mauvais temps qui peut entraîner des risques de chute. Tout ce que je viens d'évoquer comme type de risque en réalité, se manifeste très différemment en termes de moyens de protection à mettre en œuvre. Parce que si je vous dis, ben écoutez, vous évoquez ce risque, il y a un risque de chute, mettez un casque. Mais est-ce que je mets un casque dans mon véhicule automobile ? Non, ça n'a aucun sens. Dans votre véhicule automobile, vous allez mettre une ceinture de sécurité. Si vous empruntez un vélo, il faut mettre une ceinture de sécurité pour être protégé en vélo. Ça n'a aucun sens. Là, il vous faudra un casque. Pourquoi je prends cette image-là ? C'est que le terme d'intelligence artificielle est au moins aussi générique que le terme de véhicule. Alors c'est commode pour nous, pour en parler, parce qu'on va parler de bidules informatiques qui vont plus ou moins fonctionner automatiquement. Mais derrière, la réalité que vous avez n'est pas du tout la même. Et n'est pas du tout la même pour un élément qui est extrêmement important, c'est l'explicabilité. C'est-à-dire que vous allez avoir des systèmes informatiques, j'emploierai moi le terme de système algorithmique qui me semble mieux approprié, qui vont être très explicables, qui vont permettre de restituer assez facilement à leurs opérateurs la manière dont ils ont effectué les opérations, et d'autres, pas du tout. Et vous comprenez bien que les mesures de sécurité ne sont pas du tout les mêmes, ou que les prohibitions que l'on pourrait mettre en place ne sont pas du tout les mêmes. Puisque, je vais reprendre mon champ, le champ de la justice, si on a un système automatisé qui permet assez facilement de restituer son raisonnement, pour mettre en évidence une jurisprudence, par exemple, par rapport à une autre, et de justifier le choix pour lequel il le présente à un opérateur comme un juge. Bien, vous avez des moyens de contrôle pour ça. Si vous avez au contraire un système qui est totalement opaque, comme les sont les réseaux de neurones, eh bien, vous pourrez vous dire, peut-être qu'utiliser des systèmes qui ne sont pas explicables dans des contextes particuliers où vous avez besoin d'explicabilité, ce ne sera pas la meilleure idée. Donc, alors je vais vous épargner le reste, je suis désolé, je vais aller un peu loin, un peu vite sur certains slides, parce que le temps file et je veux laisser du temps à Patrick, mais ce que je veux poser avec vous, c'est qu'il y a eu deux approches pour pouvoir simuler le raisonnement. Ces deux approches, la première famille, c'est John McCarthy, Marvin Minsky, ceux qui ont créé le terme d'intelligence artificielle, qui pensaient que l'on ne pouvait modéliser la pensée que par des instructions logiques et signifiantes, par des règles explicites. Là, ce que vous voyez en haut à gauche, c'est du logo, hein, le langage que j'ai appris à mes 10 ans là, pour pouvoir faire fonctionner une petite tortue. L'avantage de ça, c'est qu'en programmant les règles, eh bien, vous avez plutôt une bonne explicabilité. À l'inverse, les réseaux de neurones vous dispensent d'expliciter ces règles, puisque vous prenez beaucoup de données, vous faites manger la machine ces données massives, vous lui donnez à ingurgiter ça, et un peu par magie, pas tout à fait, elle va être en capacité d'élaborer elle-même des règles. Un exemple très simple que je vais partager avec vous, une machine qui arrive à distinguer une photo de chat d'une photo de chien. Eh bien, dans ce cadre-là, une machine comme les réseaux de neurones, vous avez besoin de lui montrer un nombre assez conséquent de photos de chat ou de chien, et de lui dire « ça c'est un chat, ça c'est un chien », et la machine va constituer un réseau de neurones tel qu'elle sera en capacité de le distinguer. Vous n'avez pas besoin d'une ligne de code informatique, alors que si vous devez le faire de manière explicite, moi si j'ai à coder ce qui caractérise un chat d'un chien, ben vous arriverez à trouver des éléments, mais être sûr de jamais vous planter et que le système ne se plante jamais, ce sera compliqué. Donc pour le résumer, l'approche symbolique, quand vous faites du code vous-même, c'est très explicable, et ça c'est formidable, parce que vous avez de l'explicabilité, mais ce n'est pas très précis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller aussi loin que les réseaux de neurones. Or, l'approche dite statistique ou connexionniste des réseaux de neurones, eh bien, vous laissez la machine traiter des milliers de données, elle va faire ce qu'on appelle un modèle mathématique. Modèle qui, une fois établi, avec de nouvelles données, pourra donner des résultats, des prédictions. Mais le défaut, c'est que c'est une boîte noire. Donc, je m'en arrêterai là sur les aspects techniques, mais vous avez compris que cette approche, cette distinction très simple, il y en a plein d'autres que l'on pourrait faire, déjà, permet de voir qu'en droit, on ne va pas traiter de la même manière ces différents systèmes et on ne devrait pas les traiter de la même manière. Donc, je vais aux enjeux sociétaux autour de l'intelligence artificielle avec 4 points, et la transition comme ça sera faite ensuite avec les nécessités d'encadrement. Parmi les difficultés aujourd'hui majeures qui se posent à nous pour nous faire une opinion citoyenne éclairée, c'est notre rapport aux avancées technologiques qui, selon moi, n'est pas toujours si aisé que cela. Vous avez écouté la presse, vous avez probablement lu déjà des choses sur le sujet. Et vous voyez qu'on a souvent tendance à dire l'intelligence artificielle, ben, ce serait un outil plutôt neutre dont il faudrait maximiser les bénéfices et limiter les risques. En réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Parce que avec cette technologie-là entre nos mains, on a une technologie, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est en capacité de traiter de l'information, de manipuler de l'information. Et avec, pour les concepteurs qui ont cette possibilité-là, un pouvoir considérable, d'une part, et d'autre part, j'espère ne pas être provocateur en vous disant ça, le risque de transformer tous les problèmes en des problèmes qui sont traitables par de l'informatique. Pour le reformuler, c'est un peu comme si on avait inventé un marteau, et le marteau, on est très très enthousiaste, parce que ça enfonce des clous très facilement. Et on se dit, ah, c'est génial, je vais pouvoir enfoncer des rangées de clous. Et puis vous êtes tellement enthousiaste que vous dites, ah ben tiens, maintenant je vais continuer à utiliser mon marteau parce que j'ai des vis. Eh bien, je vais aussi enfoncer mes vis avec le marteau. Ben, vous vous rendrez compte que vous enfoncez des choses, mais ça ne marche pas très bien, parce que quand vous allez devoir enlever vos vis, ça ne va pas être très simple. Et puis, tiens, mettons, vous avez un œuf qui se présente à vous. Ah ben, le marteau, ça va vous l'ouvrir, mais l'œuf va être complètement éclaté, parce que ce n'est pas le bon outil pour traiter la chose. Donc, là où j'en arrive, c'est que notre approche mathématique, probabiliste, statistique, traite très bien certains problèmes. Des problèmes qui se trouvent dans des environnements qu'on appelle dits fermés, dans lesquels il y a assez peu de fantaisie. Les jeux, le jeu de Go par exemple. Le jeu de Go est quelque chose où les dispositifs qu'on vient de voir, ces systèmes algorithmiques, ont réussi à réaliser des progrès considérables que l'humain n'avait jamais pu réaliser. C'est comme ça que Lee Sedol, un des champions mondiaux du Go, se retrouve en difficulté face à la machine. Il se fait battre par la machine parce que la machine arrive à dépasser en capacité calculatoire des, l'humain. Mais pourquoi ça fonctionne? Au jeu de Go, vous n'avez pas une pierre rouge qui apparaît d'un coup. Vous avez ou des pierres noires ou des pierres blanches. Au jeu de Go, vous n'avez pas un environnement qui d'un coup s'étend de manière infinie. Vous avez 19 lignes sur 19. Ce que j'arrive, et les règles sont déterminées à l'avance. Donc dans un environnement stable, où il y a beaucoup de possibilités qui sont exponentielles, mais qui est fermé, eh bien les capacités calculatoires de la machine nous dépassent à coup sûr. Prenons un autre exemple. Les voitures. Pourquoi, au moment où l'on parle, alors que ça fait plus d'une décennie, même avant, qu'on nous annonce des véhicules autonomes dans les rues, pourquoi est-ce qu'on n'en voit toujours pas? Est-ce que vous pensez que c'est juste des règlements, des industriels qui voudraient, qui ne seraient pas doués, ou alors des juristes, des décideurs publics qui voudraient empêcher la venue de véhicules dans nos rues? Non. C'est parce qu'on se trouve dans un environnement ouvert, par nature instable. Et où si on avait des véhicules que sur des autoroutes extrêmement bien normées, eh bien on aurait probablement des choses assez autonomes. Mais dès lors que vous êtes sur des routes de campagne, des routes ouvertes, où des événements absolument improbables peuvent se présenter, eh bien aujourd'hui, dans des environnements ouverts, ces dispositifs-là, mathématiques, statistiques, probabilistes, que sont les algorithmes, ne savent pas très bien le traiter. Et pourquoi ils ne savent pas très bien le traiter? C'est qu'il leur manque quelque chose de fondamental, et c'est Yann Lequin qui le dit, un des chercheurs que je vous présentais tout à l'heure, c'est que nous n'avons pas modélisé notre entier monde. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité mathématique de modéliser notre entier environnement et d'inclure dans une machine toutes les variables qui font que notre environnement, la vitesse de l'air, la vitesse, comment dire, des objets quand ils sont projetés dans l'air, des lois mathématiques, statistiques, physiques. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'avoir cette représentation du monde complète de manière mathématique. Et ce que nous dit Yann Lequin, ce qui manque aussi à ces outils, le sens commun, la capacité de planifier, la capacité d'anticiper. Alors ça ne veut pas dire qu'un jour on ne l'aura pas, mais ça veut dire qu'avec les outils dont nous disposons concrètement aujourd'hui, nous avons des limites, et ces limites qui se présentent à nous aujourd'hui ne sont pas des limites qui vont être résolues par beaucoup plus de données ou de la sophistication. Des chercheurs en mathématiques, notamment qui s'appellent Giuseppe Longo et Christophe Calude, ont publié un article assez intéressant où ils démontrent qu'en augmentant la quantité de données traitées par les algorithmes, eh bien, on augmente en réalité les risques de corrélation fallacieuse. C'est-à-dire le hasard. qui font que deux données vont être liées l'une à l'autre, mais pour lesquelles ça ne tient qu'au hasard. Et l'exemple connu, Patrick m'a déjà entendu reprendre cet exemple, c'est sur des grands jeux de données qui ont été exploités par un statisticien un peu malicieux. Ce statisticien me démontrait qu'il y avait des corrélations entre des phénomènes totalement improbables qui n'ont pas de sens. Par exemple, il a démontré qu'entre 2001 et 2011, dans l'état du Maine aux États-Unis, vous avez une corrélation statistique très forte entre le taux de divorce et le taux de consommation de margarine par habitant. Donc, si vous laissez une machine probabiliste œuvrer sans comprendre la corrélation qu'il y a derrière, eh bien, parce que la machine sera renseignée que vous consommez, admettons, beaucoup de margarine, eh bien, en prédiction, elle va vous dire, vous avez de grands, grands risques de divorcer. Et ça, ce que je viens de vous dire, ça vous est rendu sensible de manière amusante, de cette manière-là. Mais imaginez que les corrélations des données derrière sont une sorte d'enchevêtrement avec des milliards de paramètres dans lesquels retrouver cette corrélation fallacieuse est un exercice absolument impossible. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous avons besoin de réglementation, c'est que ces systèmes-là sont perfectibles en tant que tels et il faut arriver sociétalement à bien comprendre qu'ils ne vont pas résoudre tous les problèmes. Nous avons également, je vais aller vite sur ces autres enjeux, des pressions d'enjeux de souveraineté. C'est-à-dire que quand bien même tout ce que je viens de poser avec vous comme contexte est connu, partagé, des scientifiques les plus sérieux, eh bien, nous avons des pressions économiques, parce que, évidemment, ben, on fait de l'argent hein, aujourd'hui avec ces dispositifs-là, donc quel État voudrait se priver de ça? Et surtout, quel État voudrait se priver de la capacité d'établir des dispositifs sécuritaires, et j'entends en particulier des dispositifs militaires derrière ça. Où l'idée qui est répandue, c'est que grâce à ces systèmes-là, vous avez vu dans le conflit hein, entre Israël et la Palestine, l'utilisation massive d'intelligence artificielle par Israël. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et quand bien même ce serait approximatif, que le système dirait « Oh, les victimes civiles, il y en aura entre 20 et 200 », eh bien l'humain décide de se satisfaire de cette information possiblement approximative. Et certainement une transformation profonde de nos modes de gouvernance aussi. Je ne le développerai pas maintenant, hein. Ça a été l'objet d'un des passages de mon ouvrage, dans lesquels ceux qui vont décider de ces algorithmes-là vont être les nouvelles sources de pouvoir. C'est-à-dire que la source de pouvoir démocratique que nous connaissons aujourd'hui, hein, d'élection par des citoyens, de gouvernement représentatif, nous sommes en train de glisser et sans être devin. La place d'Elon Musk, aujourd'hui, au sein du gouvernement états-unien, n'est pas du tout un hasard. Pas du tout un hasard. Et Musk, et surtout Trump, s'est associé avec Musk pour une très bonne raison pour cela. Et enfin, je conclurai là-dessus, l'enjeu environnemental majeur de ces technologies-là, puisque produire une image par une intelligence artificielle, vous avez des IA génératives qui permettent de générer des images automatiquement, eh bien, générer une image, c'est le temps de recharge complet d'un smartphone comme celui-ci. Imaginez le nombre d'images générées par jour aujourd'hui sur ces dispositifs-là. Entraîner un modèle d'intelligence artificielle génératif, un modèle, alors qu'il y en a des millions aujourd'hui en œuvre, un seul modèle, c'est le cycle de vie de 5 voitures de manière complète. Donc, si aujourd'hui certains se projettent dans une société entièrement numérique, il va falloir sérieusement résoudre le problème de la consommation électrique de ces dispositifs-là. Et c'est pour ça qu'il faut des réponses juridiques, à mon sens, et aujourd'hui le droit intervient de façon à apporter à la fois de clarification sur les termes, parce que quand même c'est un peu le rôle du droit hein, de qualifier justement les choses, hein, et aujourd'hui qualifier l'intelligence artificielle, c'est le travail qui a été réalisé dans le cadre de la Convention, de trouver une qualification commune sur ce que l'on entend par ce dispositif-là était essentiel. Et sur les problématiques que je viens d'évoquer, eh bien trouver des cadres nécessaires pour pouvoir apporter de la confiance dans le fonctionnement de ces outils-là. C'est pour ça que du côté de l'Union européenne, un règlement sur l'intelligence artificielle a été adopté en juin de cette année. Hein, on le trouve souvent sous le terme de AI Act. En franco-français, j'ai préféré le terme « règlement sur l'intelligence artificielle » ou RIA, qui est une législation sur les produits. Ça rentre dans le cadre du New Legislative Framework hein, de la Commission européenne depuis 2008 et qui, comme pour tout autre type de produit, apporte une réglementation, une gestion par les risques de la mise sur le marché des outils d'intelligence artificielle. Donc il y a des produits qui sont prohibés, par exemple, la notation sociale, hein, comme en Chine, hein, le fait d'avoir des dispositifs de notation sociale qui viendraient pour chacun citoyen donner des bonnes ou de mauvaises notes aux citoyens, qui ouvriraient la possibilité d'avoir accès à plus ou moins de services, hein, au sein de l'État. Ça existe en Chine. En Europe, on a dit « nous n'en voulons pas » et c'est prohibé. Vous avez des systèmes à haut risque, avec 8 domaines à haut risque, hein, notamment le domaine de la justice, de la santé, les infrastructures critiques. Et vous avez enfin des domaines dans lesquels il y a besoin d'un peu de transparence, hein, comme par exemple la génération de deepfake, hein, c'est-à-dire d'outils imitant, hein, des personnes ou des humains, voilà, ou reproduisant des visages. Vous avez peut-être vu ça, hein, où on arrive à imiter aujourd'hui de manière assez convaincante. Eh bien, le règlement prévoit une mention obligatoire sur ces productions-là, que cela a été régénéré par de l'intelligence artificielle. Voilà pour ce règlement-là. Et ce règlement traite aussi des droits fondamentaux, hein, puisqu'il se fonde notamment sur l'article 16 du traité de fonctionnement de l'Union européenne sur la protection des données s'agissant de la reconnaissance faciale. Mais c'est la Convention cadre du Conseil de l'Europe qui vient apporter les éléments nécessaires pour pouvoir couvrir complètement les droits humains, la démocratie et l'état de droit. Patrick, je te cède la parole.
Merci beaucoup, Yannick, pour cette présentation très, très dense en trois étapes. Avant de donner directement la parole à Patrick, je vous donne la possibilité de peut-être poser une ou deux questions qui sont reliées directement à la compréhension de ce qu'a dit Yannick. Alors, pas encore de discussion. Est-ce qu'il y a des besoins de clarification en ce moment? Ceci ne semble pas être le cas. Alors, on peut continuer avec la présentation de Patrick. Et tu as la parole.
Je mets ça, vous m'entendez mieux comme ça, je suppose, non? Tout d'abord, merci Yannick, parce que bon, Yannick, nous avons travaillé ensemble, et comme toujours au Conseil de l'Europe, nous avons besoin d'expertise. Et comme vous le voyez, l'expert, c'est Yannick, c'est pas moi. Moi, j'ai géré un service, et dans ce service, nous avons élaboré une convention, comme nous avons déjà élaboré d'autres conventions dans d'autres domaines, et je vous en parlerai plus tard. Mais Yannick, il a oublié de dire qu'il est aussi enseignant à la faculté de droit, de sciences politiques et de gestion à l'université de Strasbourg, et qu'il donne un cours de tout un semestre sur le sujet. Donc si vous voulez plus de détails, adressez-vous à Yannick pour éventuellement de suivre ses cours. Plusieurs de ses étudiants sont sur mon LinkedIn parce qu'ils m'invitent des fois à venir parler à la faculté, et ça nous permet de nous confronter aussi à un jeune public qui découvre, parce qu'au fait, Yannick a une double capacité. C'est quelqu'un qui connaît le droit, spécialisé là-dedans en tant que magistrat, mais qui connaît aussi la technologie. Et entre nous, c'est un vrai désastre pour le Conseil de l'Europe que quelqu'un comme Yannick nous quitte le Conseil. Je pense qu'il est important de pouvoir garder justement ces compétences, ces capacités que nous avons et que nous avions avec Yannick pour continuer à travailler sur le sujet. Il ne s'agit pas juste d'administrer un sujet comme ça. Il faut le connaître avant tout. Et ça, je pense que nous perdons un peu avec tout cela. Maintenant, j'avais quelques questions à vous. D'abord, je suis hyper content de vous voir. C'est un plaisir parce que, bon, j'ai travaillé avec plusieurs d'entre vous. Certains d'entre vous m'ont interprété dans ce que je faisais avant. On a eu une coopération très étroite, et c'est important de voir que il y a un relais qui se fait. C'est important. Actuellement, j'ai été, ça fait 15 jours que je suis à la retraite, donc j'ai la même couleur que vous. Et je me suis engagé dans une association européenne qui défend les droits des seniors sur le plan européen. Et c'est très intéressant. Déjà, je pourrais dire, commencer au niveau du Conseil de l'Europe, parce qu'on quasiment, sauf ceux qui sont dans l'AIAS ou au comité du personnel, Philippe, on perd tous nos droits, en quelque sorte. On a droit à la retraite, mais il faut trouver à se garer. Peut-être qu'il faut réfléchir, AIAS, au fait de comment pouvoir faciliter, pour ceux qui le souhaitent, un accès au Conseil de l'Europe pour des activités comme celle-ci. Juste une idée. Bon, j'avais quelques questions pour vous d'abord. Qui a encore une Nokia? Vous vous rappelez ce que c'est, hein, une Nokia quand même? Vous n'avez plus de Nokia? Qui a un smartphone? Il y en a qui n'en ont pas? Ah, vous, il y en a qui n'en ont pas? Non. Monsieur De Jong, c'est impossible. Mais qui d'entre vous a déjà dû déclarer que vous n'êtes pas un robot? Ah, tout le monde, là tout le monde. À part Monsieur De Jong, tout le monde. Qui a été déjà contacté par téléphone et que vous vous rendez compte par la suite que la personne qui vous parle n'est en effet pas une personne, mais un ordinateur? Ouais. Donc tout ça, je pense qu'on est tous confrontés. Qui a son smartphone ici sur vous? Vous l'avez tous. Donc, félicitations. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de donner des données, de rassembler des données qui vont finalement aider l'intelligence artificielle à fonctionner. Et qui pourrait, par la suite, influencer des décideurs qui ont accès à vos données, de se dire, cette personne, pourquoi elle est assise pendant 2 heures sans bouger? Est-ce que cela ne comporte pas un risque de santé, n'est-ce pas? Donc, et bon, au Conseil de l'Europe, nous avons déjà travaillé sur des questions plus techniques auparavant. Vous avez des exemples en tête sans aucun doute. En 81, nous avons établi une première convention, attachez-vous, sur la collecte automatisée de données personnelles. 81. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les ordinateurs n'existaient pas, et surtout pas au Conseil de l'Europe. Mais on a déjà eu la lucidité de travailler sur des sujets aussi pointus que cela, en sachant maintenant que la base de ce dont nous discutons aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tient ses racines dans la collecte de données. Comme l'a très bien expliqué Yannick, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, qui a travaillé avec des tableaux Excel? Oui, certains d'entre vous plus que d'autres, bien évidemment. Avec combien de colonnes? Assez large pour Bernard, bien sûr, pour d'autres peut-être un peu moins large. Bernard, pourrais-tu t'imaginer un tableau Excel qui a quelques millions d'entrées?
Personnellement, pour mon usage, non.
Pour ton usage, non. Moi non plus, franchement. Je m'arrêterai déjà à 4-5, ça serait déjà suffisant. La collecte de données actuelle permet des tableaux
Excel qui ne sont pas des tableaux Excel, avec des millions, voire des milliards d'entrées. Cela demande bien évidemment aussi la nécessité de pouvoir stocker tous ces documents. Je ne sais pas si vous avez des photos que vous avez prises de façon numérique. Non, vous ne prenez pas des... Vous êtes encore dans le stade analogue? Non. Vous voyez tout de suite combien de capacité cela demande. Pensez maintenant à toutes ces données qui sont stockées et dont on a besoin, pour lesquelles on a besoin d'énergie pour les stocker. Parce que elles ne sont pas stockées dans une armoire au fond du couloir, elles sont stockées dans des systèmes numériques. Bon, ceci comme introduction. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez télécharger la présentation par la suite pour savoir qu'il s'agit de ce qu'est le Conseil de l'Europe et que c'est la plus grande organisation intergouvernementale du continent et tout ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, c'est plus la secrétaire générale, on a un autre maintenant, mais bon, voilà. Les conventions pertinentes, j'en ai déjà parlé. Maintenant, avant de commencer là-dessus, ce qui serait intéressant de savoir, avant de commencer à travailler sur une convention sur l'intelligence artificielle, on s'est posé en quelque sorte trois questions. La première, c'est est-ce que, déjà, parce qu'à l'époque 2018-2019, ce qui était en vogue, c'était des chartes éthiques sur l'intelligence artificielle. Ça, c'était vraiment le point culminant de tout le monde qui souhaitait une charte éthique sur l'intelligence artificielle. Deuxième, c'était en quelle mesure l'intelligence artificielle n'est déjà pas suffisamment réglementée par les instruments que nous avons déjà en place, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention 108+, qui est sur la collecte de données, la Convention d'Oviedo, la Convention de Budapest. Est-ce que nous avons vraiment besoin d'encore de créer un autre instrument, un nouvel instrument au niveau du Conseil de l'Europe, et ne pouvons-nous pas satisfaire avec ce que nous avons déjà? Troisième élément, si nous ne pouvons pas satisfaire avec ce qui existe, quels seraient alors les éléments qui devraient être couverts par ce nouvel instrument? Maintenant, tout cela s'est en quelque sorte déroulé dans mon service, qui s'appelait le service de la société de l'information, dans lequel on travaillait déjà sur plusieurs domaines. Le premier était la protection de données, le deuxième c'était la cybercriminalité, le troisième c'était tout ce qui était la liberté d'expression et des médias. Mais nous avons établi aussi, au cours des années 2015 à 2022, des relations avec l'industrie. Au niveau du Conseil de l'Europe, on avait déjà la conférence des ONG. Certains d'entre vous ont M. De Jong, par exemple, très étroitement collaboré avec la conférence des ONG. Mais nous n'avions pas d'instrument pour travailler avec le secteur privé. Donc nous avons créé, à travers des stratégies numériques du Conseil de l'Europe, un instrument qui nous permettait de travailler avec le monde de l'industrie, et notamment dans le monde numérique. Tout cela pour vous dire, il y avait déjà une certaine cohérence dans notre logique. Et quand nous avons commencé à proposer, à donner un mandat au comité directeur sur les médias et la société de l'information, de commencer à travailler sur les questions des algorithmes, le comité de ministres, désolé Mireille, tombait un peu des nues. Parce qu'il se disait, pourquoi travailler sur des algorithmes? Ce qui nous référait un peu au collège et au lycée, mais certainement pas à des décisions politiques. Nous avons toutefois persévéré et nous avons proposé au comité de ministres de faire une recommandation sur, une déclaration d'abord, sur les capacités manipulatives des algorithmes. C'est une grande nouvelle. 2 ans après, la chancelière Merkel, devant le Bundestag, parlait des algorithmes. Pour vous démontrer comment, dans très peu de temps, cette question de l'intelligence artificielle est devenue de première importance. Donc nous avons proposé au comité de ministres de créer un comité ad hoc qui allait travailler sur les 3 éléments sur lesquels je vous ai déjà introduit, qui a été succédé par la suite avec un mandat précis de créer une convention cadre sur l'intelligence artificielle. Important de parler d'une convention cadre. Cela veut dire que nous n'allons pas aller dans le détail par rapport à la technologie en tant que telle, mais plutôt d'établir les principes génériques que devrait suivre l'intelligence artificielle quand elle est développée. Ce qui permet aussi, par la suite, à d'autres secteurs, comme tu en as parlé, Michael, de continuer dans la même veine pour travailler plus spécifiquement, par exemple, sur l'éducation, sur la justice et sur d'autres points, art, culture, tout ça qui est aussi affecté par l'intelligence artificielle. Donc ceci a abouti à cette convention cadre. Nous avions jusqu'au 15 mars 2024 pour la finaliser. Le 14 mars à 23h45, nous avons conclu un accord. Je vais vous dire avec quel partenaire et tout cela. Et nous avons pu réaliser, avoir un accord d'ensemble avec tous les interlocuteurs sur la question du contenu de cette convention cadre. Actuellement, nous sommes encore en train, mes anciens collègues sont encore en train de travailler sur la méthodologie de mise en place de la convention. C'est-à-dire que une fois que ces éléments génériques sur lesquels on s'est mis d'accord sont mis en avant, par la suite, il faut encore des moyens de mesurer, d'évaluer dans quelle mesure ces principes sont également respectés dans les législations, mais aussi dans le développement des produits. Donc, au niveau du sommet du Conseil de l'Europe en mai 2023, nous avions obtenu un mandat, en quelque sorte, pour finaliser cette convention cadre cette année. Caractère mondial de cette convention, ouverte aux États non membres, ce qui était primordial, c'est que, et bon, Yannick en a fait déjà un peu allusion à cela, quand on parle intelligence artificielle, ce serait un peu trop eurocentrique de penser que les Européens pourraient réglementer le monde par rapport à la question de l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas les premiers. Même si la Commission européenne et l'Union européenne souhaitent investir davantage dans ce domaine, nous n'allons pas rattraper ni la Chine ni les États-Unis par rapport à cela. Donc il faut donner un autre cadre. Et cet autre cadre est le respect de nos valeurs. C'est ce que nous avons essayé de mettre en avant. Ce n'est pas une convention cadre purement sur l'intelligence artificielle, c'est de voir comment, dans l'utilisation, dans la mise en place de l'intelligence artificielle, nous allons respecter ces valeurs. Et pour cela, il était, et bon, certains d'entre nous sont certainement beaucoup plus globalistes que eurocentriques, il fallait davantage inclure des pays comme les États-Unis, le Canada, des pays qui soutiennent les mêmes valeurs que le Conseil de l'Europe. Dans une société, et bon, on peut se poser la question des fois, bien évidemment, par exemple, Israël faisait partie des négociants et qui a déjà signé la convention. Mais il y a aussi des pays d'Amérique latine comme le Costa Rica, Pérou, Uruguay, Argentine, Australie, le Cameroun qui souhaite maintenant se rejoindre aussi à cette initiative. Il était important de créer dans une communauté de valeurs une approche commune à l'intelligence artificielle. Donc finalement, l'accord que nous avons conclu ce 14 mars à 23h45 et qui par la suite a été approuvé par le comité de ministres en passant par l'Assemblée parlementaire, etc., etc., incluait déjà 56 pays qui étaient derrière cette initiative. Ils n'ont pas encore tout signé. L'ouverture à signature était trois mois après la conclusion de nos travaux, ce qui est pour un État très court pour pouvoir décider, oui ou non, s'ils allaient signer cette convention. Il y avait aussi un engagement de la société civile, avec une très large participation du secteur civil. Voilà, toutes les organisations, les 68 observateurs non étatiques, que ce soit l'industrie, que ce soit l'académie, des académiciens, que ce soit des associations de défense des droits de l'homme, etc., etc., faisaient partie des observateurs. Donc, vous pouvez aussi vous imaginer un tout petit peu, on se réunissait dans la salle 5, je ne sais plus exactement combien de places il y a dans la salle 5, il y en a peut-être entre vous qui savent mieux que moi combien de places il y a là-dedans, mais la salle était bondée, parce que les États envoyaient entre 5 et 10 représentants pour pouvoir négocier cette convention. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient, pour vous donner un exemple, les États-Unis venaient avec une personne de la justice, des affaires intérieures, du White House, qui étaient tous représentés dans la délégation. Donc ça donne aussi un peu une idée de l'importance qu'ils donnaient à cette négociation. Nous avons bien évidemment aussi pris en compte les autres organisations internationales. Il ne s'agissait pas de faire un travail chez nous, entre nous, mais de promouvoir, de réfléchir ensemble quel pourrait être, par exemple, le rôle spécifique de l'Union européenne, quel pourrait être le rôle spécifique de l'OCDE et également les plateformes globaux, notamment l'UNESCO, qui avait déjà fait un travail important sur la question. Bon, ça c'est la procédure, les points généraux, c'est-à-dire la consultation de l'Assemblée parlementaire qui est obligatoire quand on, n'est-ce pas, Andrew, qui est obligatoire dans tout le processus de ratification, d'acceptation par le comité de ministres d'un nouveau traité de l'organisation. À nouveau, protéger les droits humains, démocratie et droits de l'homme, mais qui sont aussi propices au progrès et aux innovations technologiques. C'est-à-dire, il n'y a pas une attitude négative envers le développement de l'intelligence artificielle. Mais c'est de se dire, si nous souhaitons développer cette intelligence artificielle, à quels critères est-ce qu'elle va devoir répondre. Donc, norme, je vous ai déjà dit, complète en quelque sorte les normes internationales existantes relatives aux droits humains, droits de l'homme, démocratie, état de droit, protection de la démocratie, ce qui n'était pas une évidence parce que pour nous, quand on parle de défense des droits de l'homme, pour parler de l'institution, des droits humains, nous avons un nombre d'articles, critères qui se réfèrent à cela, qui sont beaucoup plus identifiables. Pour la démocratie, ces mêmes critères n'existaient pas. Donc il a fallu aussi les rendre beaucoup plus opérationnels de ce qu'on voulait dire par cette protection de la démocratie, et qui doivent aussi résister à l'épreuve du temps. Par exemple, en plein milieu des négociations, il y avait toute la question du ChatGPT. Vous avez suivi le ChatGPT, je suppose. Vous l'utilisez peut-être. Je vous le conseille, vous pouvez une fois essayer d'utiliser cet outil pour faire un petit discours. Par exemple, Michael, la prochaine fois que tu dois faire un discours, tu demandes à ChatGPT de te le faire, et ChatGPT va te le faire pour te faciliter peut-être la vie. Mais ça voulait dire aussi, et il y avait toute une effervescence autour de ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle générative basée sur la langue. Les interlocuteurs, certains interlocuteurs, voulaient qu'on se focalise sur cet outil spécifique. Mais nous avons choisi de ne pas nous focaliser là-dessus, mais de rester technologiquement neutre. Comme nous l'avons fait dans d'autres conventions. La convention sur la cybercriminalité, par exemple, qui a été conclue il y a 20 ans, ne parlait pas de ça, parce que ça n'existait pas. Mais la convention en tant que telle nous permettait d'interpréter la convention de façon à ce que ceci soit considéré comme un ordinateur, finalement. Ce qu'il est, parce que bon, entre il y a 20 ans et maintenant, ceci a beaucoup plus de compétences que l'ordinateur qui remplissait une salle entière quand j'étais étudiant en Sciences Po. Donc neutre en termes technologiques, pour nous permettre justement de savoir, de ne pas savoir, quels seraient les développements à l'avenir et quand même pouvoir y répondre. Bon, ce qui était une difficulté, c'est un peu la cuisine interne, mais c'était comment on va couvrir les secteurs publics et privés. Je vous rappelle, nous avions le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Israël autour de la table qui n'étaient pas très en faveur de couvrir le secteur privé. Et dans la presse, parce que bon, le développement d'une convention comme ça attire bien évidemment beaucoup d'attention médiatique, nous accusait en quelque sorte de vouloir exclure le secteur privé pour privilégier nos relations avec les États-Unis. Comme je vous ai déjà dit, conclure une convention qui ne serait que parmi les États de l'Union, du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne, pour nous, n'était pas suffisant. Donc, les États-Unis, inclure les États-Unis, le Canada, l'Australie dans cette négociation était de toute façon très importante. Mais nous avons obtenu que le secteur privé soit également fait partie du champ d'action champ d'application de la Convention. Il y avait des exemptions limitées sur la sécurité nationale, la recherche et le développement. Beaucoup de pays ne souhaitaient pas que la recherche et le développement soient couvertes par la Convention. Parce que c'est encore une fois le nerf de la guerre. C'est là où on souhaite avoir la totale liberté de développer ce qu'on souhaite. Et pour nous, bien évidemment, la défense nationale n'entre pas dans le champ d'application en raison de notre statut. Définition d'un système d'intelligence artificielle, là aussi, à nouveau, plutôt que de se dire on va réinventer une nouvelle définition, on a utilisé la définition qui avait déjà été conclue par l'OCDE. Et nous nous sommes basés là-dessus pour dire, et également l'Union européenne s'est basée sur cette définition, qui peut vous sembler limitatif, dans le sens que, bon, l'intelligence artificielle peut tout couvrir et peut aussi nous amener vers des fantasmes d'un côté ou d'un autre, mais il faut limiter le champ d'application. Nous avons choisi de parler d'un système automatisé qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit sur de quoi ? Des données, bien sûr, à partir d'entrées reçues, comment générer des résultats en sortie telles que les prévisions, les contenus, des recommandations ou des décisions qui peuvent influer sur les environnements physiques et virtuels ou virtuels. Pourquoi physique ou virtuel ? Parce que le virtuel prend de plus en plus le dessus. Les nouvelles technologies nous mènent, je ne sais pas si vous l'avez, un des mercredis du Conseil de l'Europe, j'ai parlé de cela, nous mènent vers un monde virtuel, c'est-à-dire le métavers. Qui a déjà entendu parler du métavers ? Des metaverses. L'Assemblée parlementaire a même fait un rapport sur le métavers basé sur les travaux que le Conseil de l'Europe a déjà fait sur la question. Encore une fois, on est à la pointe pour chercher quels sont les développements et quel peut être l'impact sur la vie des citoyens et notamment sur nos valeurs. Donc, on parle de différents systèmes d'intelligence artificielle qui présentent différents degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après leur déploiement. Différents degrés d'autonomie. Yannick a un peu parlé des voitures autonomes. Les voitures deviennent, même si on ne parle pas d'une voiture totalement autonome, mais si on réfléchit, il y a toute une série de degrés d'autonomie qui sont de plus en plus exploités. La voiture que nous avons actuellement n'est plus la voiture que nous avions il y a 15 ou 20 ans. Déjà par rapport aux systèmes qui sont intégrés, qui nous permettent d'identifier les parcours. Là, l'histoire de la petite Lina ici en Alsace, comment ils ont retrouvé les différents endroits où la voiture de la personne qui a probablement perpétré le meurtre, comment elle a été retrouvée à 500 km de Strasbourg ou à 500 km des Vosges, parce qu'ils ont pu analyser les données intrinsèques qui étaient incluses dans la voiture. Donc, Monsieur de Jong, même si vous n'avez pas de smartphone, je vous conseille que vous ne changez pas de voiture et que la voiture a au moins 15 ou 20 ans pour qu'on ne vous repère pas quand vous commettez un crime. J'en profite parce que M. de Jong était mon directeur aux affaires. C'était secret. était mon directeur aux relations extérieures et je le remercie encore pour la période où nous avons pu travailler ensemble il y a 20 ans ou plus. Plus, je pense, entre-temps, 25, 24, 25 ans. Voilà. Donc, quels sont les principes fondamentaux? Bien évidemment, des principes qui sont assez génériques, la dignité humaine, autonomie personnelle, l'égalité, non personnelle, mais décrit aussi les principes de transparence, contrôle, obligation de rendre des comptes et de responsabilité, l'innovation, une innovation sûre et le principe de fiabilité. Fiabilité, surtout quand il s'agit de systèmes hautement sophistiqués, parce que l'intelligence artificielle est aussi, par exemple, dans l'aviation. On ne souhaite pas une fiabilité de 80% quand on prend l'avion. On souhaite une fiabilité de 100%. Avec une fiabilité de 80% de pouvoir atterrir, je ne prends pas l'avion. Et vous non plus, je suppose. Donc il y a ces principes qui sont inclus dans la Convention. Ok, deux. Oh, 35 minutes. So, je vais m'arrêter parce que bon, je parle aussi beaucoup trop long, comme Yannick. Hein? Donc il faut aussi pouvoir documenter. Il faut avoir des informations suffisantes qui permettent les personnes concernées de contester les décisions qui sont prises. Par exemple, aux Pays-Bas, ça c'est vraiment pas lié avec M. De Jong, le système de sécurité sociale, à un certain moment, a exclu du système d'allocation familiale toute une série de personnes qui, malheureusement, avaient les mêmes caractéristiques du système d'allocation familiale basé sur l'intelligence artificielle. Donc il va falloir pouvoir documenter, argumenter, s'assurer qu'il y a une transparence par rapport aux critères qui sont utilisés quand l'intelligence artificielle est mise en place. Et avoir des recours. C'est Philippe qui a parlé du tribunal administratif. On n'en est pas encore là pour tout ce qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'organisation, mais la possibilité de recours qui est fondamentale dans tout ce contexte-là. Risque et impact, je pense que ça a été couvert par Yannick. Il faut avoir une évaluation des risques. Et le système, la convention cadre, permet aussi d'identifier des lignes rouges, c'est-à-dire des systèmes que nous ne souhaitons pas développer, qui impliquent par exemple le contrôle social, comme c'est déjà le cas dans certains pays, notamment la Chine, qui permettent de suivre les individus directement et qui permettent de les, en quelque sorte, donner des brownie points ou à l'inverse, de leur enlever certains droits. Risque des impacts, donc là on travaille actuellement sur cette méthodologie pour l'évaluation des risques et des impacts des systèmes d'intelligence artificielle. Complémentarité avec le AI Act. Vous avez peut-être déjà entendu parler du AI Act qui établit un règlement et des règles harmonisées au niveau de l'Union européenne. Ces deux instruments sont complémentaires. On parle pour l'Union européenne d'un instrument qui est beaucoup plus orienté vers le produit, tandis que notre convention est beaucoup plus orientée vers la protection des valeurs. Parce que les AI Act, in fine, s'oriente beaucoup plus vers le marché intérieur et les relations avec les partenaires extérieurs. Ok, bon, l'ouverture à la signature était le 5 septembre. Tous ces pays-là, y inclut le Royaume-Uni, qui a joué un rôle fondamental dans les négociations, mais aussi les États-Unis, ont déjà signé la convention cadre. Voilà. Désolé, j'étais un peu long.
Merci beaucoup à vous deux, Yannick et Patrick. Pas trop long à mon avis, parce que les sujets sont vraiment complexes et je pense qu'ici au Conseil de l'Europe, on peut se féliciter de cet achèvement, à savoir d'avoir cette convention cadre.